Yeah. Ouellet.
Bravo.
En direct.
Bravo en passant.
En direct. Avec JC.
En direct.
Et Patricia.
Radio. X.
h 01 minute. On est jeudi et un auditeur me fait l'excellente blague suivante et je me demande de quoi vous allez parler avec Benjamin. Il se passe pas grand-chose. Mmh. C'est ce que je dis à peu près à toutes les fois que je parle avec Benjamin sur notre Messenger. C'est Colin, hein? C'est pas comme si on manquait de sujet. Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. Bonjour, comment ça va?
Bonjour, JC. Merci de me recevoir.
C'est un grand plaisir. Il se passe tellement d'affaires, écoute, qu'on a, comme on dit, le choix des cadeaux. Peut-être ouais. Commencer avec l'histoire du deal avec le Groenland. Quoi qu'on l'a pas, mais on a eu un Trump dans un corridor d'hôtel qui a dit « on a tout ce qu'on veut pour toujours ». S'agit juste de valider là, qu'est-ce que ce sera. Mais il y a quand même eu un appui qu'on n'attendait peut-être pas assez important. Et j'ai nommé quand même le chef de l'OTAN qui l'a pas mal backé pendant le WEF.
Oui, ouais, effectivement. Mark Root, qui, on s'entend, là, quelqu'un qui a toujours été très proche de Trump historiquement. Là-dessus, sur la question du Groenland, j'ai l'impression que le chef de l'OTAN essayait d'éviter une explosion de l'Alliance, littéralement, parce que là, on s'en allait dans mauvaise direction, manifestement. Les Alliés étaient en colère contre la posture américaine qui n'excluait pas encore la force. À partir du moment où l'OTAN vient s'impliquer de tout ça, puis dire, là, faites attention, parce que ça pourrait vraiment avoir des impacts négatifs pour le reste de l'Alliance, c'est sûr, certain qu'il fallait qu'il assume une posture de médiation dans tout ça.
Est-ce que le deal sera bon? Ça, on le sait pas, mais de ce qu'on comprend, ils n'ont pas parlé de posséder là, le Groenland, comme le répétait jour après jour Trump. On parle vraiment d'une espèce d'entente. Ils vont renégocier, en fait, l'entente avec le Danemark de 1951. Et probablement que ça impliquera bon, des bases militaires, peut-être des parcelles de terrain sous autorité américaine. Je sais pas, on verra.
Ce qui est vraiment incompréhensible, JC, parce qu'on s'entend, là, on a vu la séquence ensemble tous les deux. Trump nous a mentionné depuis le début que oui, c'était une question de sécurité, mais on ne s'est jamais caché non plus du fait qu'on voulait l'entièreté de l'île, qu'on voulait la totalité
à répétition.
Du Groenland. Puis on a parlé aussi, bon, peut-être un peu plus en périphérie, là, on s'est concentré sur les questions de sécurité, mais il faut reconnaître qu'on a parlé aussi beaucoup des ressources. On a parlé des passages maritimes qui sont autour. On a eu absolument conscience du fait que le passage nord-ouest, par exemple, est directement adjacent au Groenland sur la côte ouest. Fait que, tu sais, ça, ce sont des enjeux que je suis un peu sceptique là, en ce moment, parce que Trump nous a dit pendant un bout que tout ça, ça comptait. Ouais. Ça faisait partie de la réflexion américaine pour la revendication sur le Groenland. Là, le deal qu'on a entre les mains en ce moment, puis on ne l'a pas encore, tu as bien fait de le mentionner, on a des échos de vestiaire, si on veut. Ouais. On entend parler comme quoi Trump serait satisfait parce qu'on aurait cédé des bases, essentiellement. On aurait donné un arrangement aux Américains, on s'entend, on est encore dans spéculation, mais qui permettrait aux Américains de bâtir des installations de manière permanente et de contrôler et même posséder la terre en dessous. C'est pas du jamais vu. Il faut le dire, là, quand même, il y a d'autres arrangements comme ça à travers le monde, notamment, bon, les Britanniques ont des bases comme ça aussi, où ils contrôlent le terrain en dessous. C'est le genre de choses qui peut se produire, puis ça facilite administrativement la gestion. Mais je ne comprends pas du tout comment ça constitue, disons, une victoire pour Donald Trump, considérant ses revendications initiales.
L'autre affaire que je me promets de faire dans les prochains jours, parce que je l'ai lu, mais il y a une éternité, je me promets de relire le livre de Donald Trump, « The Art of the Deal », parce que de mémoire et pour avoir relu certains passages récemment, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il arrive devant une compagnie et il dit « il faut que tu t'arranges pour avoir quelque chose dont ils ont viscéralement besoin et tu pars avec des menaces. Si tu me donnes pas ce que je veux, je te coupe les vives, je te ci, je te ça. » Et c'est, tu sais, je le lisais, enlever le côté corporate, mettez le côté politique et il a fait un copier-coller. Et au final, il demande 2000, mais si tu lui donnes 1000, c'est exactement ce qu'il voulait. T'sais, donc, il a l'air tout heureux, tout sourire, tout content. Ben non, il n'y aura pas de guerre, puis il n'y aura pas de tarifs, puis tout est correct, puis je suis bien content. Donc, moi, je pense vraiment qu'il va falloir, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, en fait, là, associer directement tout ce qu'il dit à son livre.
Oui, bien, comprendre que c'est encore. On en a parlé tellement souvent, même en chronique ici, là, de la fameuse stratégie indésirable, intolérable. Encore une fois, Trump a joué exactement le même playbook à nous faire comprendre qu'il y avait une option intolérable qui était de perdre le contrôle total sur tout le Groenland par la force si nécessaire, ou de faire un deal avec les États-Unis, un deal qui peut avoir l'air parfois indésirable. Mais maintenant, c'est ce côté-là là, que je ne comprends pas en tout comment cette séquence-là s'est développée, parce que depuis le début, puis quand je dis depuis le début, je ne parle pas juste depuis le mandat de Donald Trump, là, je parle depuis les années 50. Là. Le Groenland a toujours été entièrement et totalement accessible aux Américains.
Oui.
S'il avait demandé quoi que ce soit, et surtout de l'ordre de ce qui est demandé actuellement, là, au lieu de demander « donnez-nous l'île au complet », si on avait commencé en disant « on veut des installations permanentes, contrôlées par les États-Unis », le Danemark aurait été totalement parlable. Il n'y a absolument aucun scénario dans lequel on aurait vu une escalade comme on a vu en ce moment. Fait que j'ai l'impression que Trump, là-dessus, au niveau diplomatique, s'est vraiment imposé une souffrance qui était inutile puis contre-productive. Parce que, bon, ce à quoi on a assisté dans les jours qui ont suivi, c'était pas juste à une réaction un peu superficielle, mais vraiment un réalignement de plusieurs alliés qui ont compris que les Américains, soudainement, étaient vraiment un joueur contre-productif dans l'équilibre mondial. Mm. Les Allemands, les Français, le Canada lui-même, mais aussi additionnellement, bien sûr, les Scandinaves, le Danemark, tout le monde est en train de prendre vraiment un pas de recul comme on les a pas vus faire depuis le début. On a... Puis ça, là-dessus, bon, comme Canadiens, on devrait s'en insulter parce qu'on a vu exactement la même séquence avec nous autres, puis personne n'a rien dit. Ce qu'ils sont en train de faire au Danemark, c'est exactement ce qu'ils ont fait au Canada pendant les 3 premiers mois, 4 premiers mois du mandat de Trump, à nous réduire, nous diminuer, essayer de nous délégitimer, nous faire comprendre qu'on était des moins que rien, puis qu'on, dans le fond, si on existait, c'était grâce à eux, et qu'autrement, bien, ça pourrait être bien pire. Mmh. En fait, exactement le même coup au Danemark. Là, soudainement, les gens comprennent que c'est pas juste une chicane de voisins, que c'est vraiment la nouvelle posture américaine, surtout après ce qu'on vient de voir au Venezuela, qui est une espèce de mépris ouvert, total, très candide du droit international puis des conventions. Fait que là-dessus, je pense qu'au-delà de juste la déclaration de Trump qu'on va célébrer, je pense que c'est un point tournant vraiment là, dans la posture américaine puis dans sa crédibilité comme acteur international.
Et je sais pas à quel point... Puis je nous trouve quand même assez... Puis même moi, je m'implique, là, on a tous grimpé d'un rideau, tu sais, avec les attaques envers le Groenland puis la menace militaire. Puis là, et j'ai vraiment l'impression qu'il va perdre un peu de ce edge-là. C'est-à-dire que c'est Pierre et le loup. Là. À un moment donné, il va dire « Je vais vous attaquer » puis il n'y a plus personne qui va le croire. En fait, je pense qu'il faudrait presque en arriver là. Et l'affaire avec la tactique Trump, là, donc que je relis, moi, à son livre, à sa façon de négocier dans le privé, c'est quand tu boulies une autre compagnie en tant que compagnie, bien, t'as pas l'entièreté des autres compagnies qui pognent les quêtels puis qui se fâchent, puis qui se... Tu sais, alors que là, le monde, c'est pas des compagnies, là, c'est des gens, des nations qui ont des valeurs, qui ont des territoires, qui y tiennent, il y a des patriotes là-dedans, tu sais. Alors, le jeu auquel ils jouent, soit il va devenir très dangereux, puis à un moment donné, il y en a un qui va pogner les nerfs, ou soit il n'y aura plus de crédibilité. Tout le monde va dire, on sait bien, Trump, il dit, il sort l'armée, mais il apprend pas, puis c'est le fameux taco, là, le ouais. Trump always chicken out. Là. non, mais c'est parce qu'il nous a encore donné une preuve de ça, mais bref. Pour ce cas-là, il en est venu à cette entente-là qu'on apprendra plus tard, qui n'est pas encore tout à fait...
Moi, je te le dis, JC, je pense que c'est pas fini cette histoire-là,
non.
Le Groenland.
Non, c'est
parce
pas fini.
Parce que le Groenland, le Danemark de son bord disent non, on n'a rien entendu, on n'a pas convenu de quoi que ce soit, on n'a fait aucune concession. De l'autre côté, tu as Trump qui dit qu'il y a un deal, mais il ne veut pas nous dire c'est quoi le deal, il ne veut pas nous le montrer. Fait que je ne sais pas, j'ai l'impression que ça peut encore tout s'effoirer puis prendre une dimension escalatoire. Là.
Effectivement. Moi, on est d'accord. Par contre, ça donne la chance aux autres leaders mondiaux, là, on va parler un peu de notre PM, Mark Carney, de justement se virer de bord puis dire, ben parfait, moi, je fais autre chose. Et tout ça avec... Écoute, si, mettons, là, Justin Trudeau avait fait ce qu'a fait Mark Carney, partir en Chine, avoir un accueil, je veux dire, à la hauteur d'un roi, là, avec la garde à cheval, le souper somptueux, puis toutes les petites flagorneries auto, puis en signant, parvenant avec un deal qu'on rentre des voitures électriques chinoises. Écoute, Justin Trudeau serait politiquement décédé sur le champ. Et là, Mark Carney revient avec ça. Et moi, je regarde la réaction des Canadiens et des médias canadiens. Il est revenu comme un héros qui vient nous sortir d'une situation extraordinaire, alors que je vais juste mettre les bases. nos échanges commerciaux avec les États-Unis, c'est 75 % de la business. Avec la Chine, c'est même pas 4 %. Donc, tu sais, on comprendra qu'on sauve rien, mais ça lui donne toute cette ouverture-là pour le faire avec l'accord du peuple. C'est quand même c'est fascinant, là.
C'est fascinant, mais je pense que ça nous dit tellement long sur à quel point le contexte géopolitique puis la situation, la posture du Canada, non seulement dans le monde, mais en Amérique du Nord, a changé. Au sens où, lorsque Trudeau... La dernière rencontre qu'on a eue là, entre le premier ministre canadien puis le président chinois, c'était en 2017. Ça fait presque 10 ans. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas eu le temps de se parler ou encore qu'il y avait des choses plus importantes à faire en Chine. C'est parce que nos relations s'étaient totalement effondrées. On se souvient, quelques mois plus tard, là, en décembre 2018, il y a eu l'arrestation de Meng Wanzhou, la CFO de Huawei, qui a été arrêtée à l'aéroport de Vancouver sous les ordres des États-Unis, qui nous disait à ce moment-là, on va l'extrader, on va la faire venir aux États-Unis, puis on va y faire un procès. On l'accusait d'avoir brisé des sanctions sur l'Iran à ce moment-là. Ouais. Fait qu'à partir de 2018, nous autres, on a mangé dans la main des Américains. C'était pas dans notre intérêt, ça, de s'aliéner la Chine. Ça l'a jamais été. Mais on était dans une relation privilégiée avec Washington. Les États-Unis étaient notre plus gros partenaire. Ils nous traitaient relativement bien. Donc, à ce moment-là, on comprenait que c'était dans notre intérêt de s'aligner avec les États-Unis. Maintenant, avance rapide, 10 ans plus tard, on constate que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable, prévisible et productif pour le Canada sur le long terme, qu'il faut au minimum, oui, préserver la relation, mais au minimum, la diversifier, avoir des alternatives. Puis moi, je pense que ce qui vient de se produire là, en Chine par rapport à la rencontre de Mark Carney, pourquoi moi, je partage l'avis de plusieurs, comme quoi on vient d'assister à un moment pivot, à quelque chose de vraiment spectaculaire. Parce que le Canada vient de faire un volte-face, vient de lancer un signal à tout le monde, non seulement à Chine, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus symbolique ce qu'on vient de voir. On est en train de lancer un signal aux États-Unis. Il y a une phrase en particulier là, que Trump a dit tout de suite après l'intervention au Venezuela. Il était dans son avion, il regarde les caméras, puis il dit « Vous savez, plus jamais une puissance étrangère va pouvoir s'immiscer puis défier l'hégémonie américaine dans l'hémisphère ouest. » Le signal était clair. C'est un signal à Chine, à Russie, à tout le monde de dire « Sortez d'ici ». Mais surtout ce que ça faisait, cette déclaration-là. Puis c'est ça qu'on n'a pas assez parlé. Ça venait considérablement réduire la marge de manœuvre politique, géopolitique, commerciale, militaire de tout le monde dans l'hémisphère ouest. Là. Où nous autres, traditionnellement, je parle moins le Canada, mais on pense au Brésil, au Mexique, à tous les pays normaux, on utilisait les contrepoids qui existent ailleurs dans le monde pour apporter, si on veut, un équilibre à Washington. Les Mexicains avaient une très bonne relation avec les Chinois, pas parce que c'est des vendus, parce qu'ils comprenaient qu'en étant à la frontière des États-Unis, ils n'ont pas le choix d'avoir des contrepoids. Maintenant, ce que Trump venait de nous dire à travers son intervention au Venezuela puis cette fameuse doctrine Monroe, là, c'était à partir de maintenant, vous êtes toutes nos caniches puis vous n'avez pas un mot à dire. Mmh. L'Amérique, ça appartient à l'influence américaine. Et là, 14 secondes après que Trump dit ça au monde entier, t'as le premier ministre canadien qui se prend un avion qui s'en va en Chine pour signer des deals avec les Chinois, ouvrir la porte du marché nord-américain, c'est symbolique. Ces tarifs de 100 %-là qu'on a mis ces Chinois, c'est pas nous autres qui avaient décidé, c'est les Américains qui les ont mis.
On les a suivis.
On était obligés de suivre parce qu'il y avait peur qu'on serve de backdoor là, à l'Amérique du Nord en faisant rentrer des voitures chinoises. Fait que là, ce qu'on vient de faire, c'est un gros « fuck you » aux États-Unis, littéralement, à leur montrer « regarde, mon homme, on a encore toute la souveraineté puis l'autonomie qu'on veut en matière de relations étrangères. Puis si on veut avoir des relations avec la Chine, on va le faire. » On s'entend, là, les 49 000 véhicules électriques chinois, c'est pas ça qui va changer la vie de la Chine. C'est le marché canadien, non. 30 millions de personnes, c'est la grosseur de la ville de Wuhan, à peu près.
Oui, oui, oui. Mais en même temps, pour eux, c'est les surplus. Là. On va les envoyer les voitures dans la cour, on met ça sur le paquebot. Mais pour nous, c'est quand même 20 % de toute l'industrie électrique des voitures. Tu sais, c'est nous. C'est quand même une entrée importante. Là.
Et ce que je regrette là-dessus, ça, je t'avoue, là, parce que, bon, côté géopolitique, tout ça, moi, je vois le coût symbolique qui est important là-dessus. Puis c'est plus gros que ça. On est en train, dans le fond, de dire, à partir de maintenant, le Canada sort du jupon des États-Unis pour ce qui est des relations étrangères. Ça fait 10 ans que moi, je me plaignais. Le monde disait, pourquoi t'aimes autant la géopolitique? Je disais, parce que moi, je vis dans un pays qui n'est pas un pays. Je vis dans un... Notre géopolitique, les Québécois, est pas déterminée à Québec, est déterminée à Ottawa.
Ouais.
Puis la géopolitique d'Ottawa est pas déterminée à Ottawa, est déterminée à Washington.
Ouais.
Et ça, ça m'a toujours enragé. Fait que là, on est en train de briser ce constat-là, lancer ce signal qu'on veut créer une troisième voie. Ça, là-dessus, moi, j'embarque à 200%. Là où je suis déçu, je te l'avoue, c'est que ces maudits véhicules-là, tu viens de le dire, là, on se retrouve avec les surplus d'usines de la Chine. Carrément la surproduction qu'on va déverser, dumper dans le marché canadien, alors qu'on a des usines qui ont été largement, là, on va le dire, abandonnées par l'industrie nord-américaine. À travers l'échange de tarifs qu'on vient de voir, t'as plein de gars qui sont sur le chômage dans les usines de Ford, de GM, etc., autour des Grands Lacs, et qui, en ce moment, doivent être en colère de constater que ces véhicules-là vont être fabriqués en Chine. Maintenant, là-dessus, il faut faire l'avocat du diable. Apparemment, qu'en bas de 200 000 véhicules par année, ce serait très difficile de rentabiliser parce qu'il faudrait que l'usine roule 24 heures sur 24 ouais. avec deux chiffres. Ce serait la seule manière de rentabiliser ça. Fait que là, on est un peu entre l'arbre et l'écorce. On fait venir des véhicules chinois, mais pas assez pour faire virer une usine. Ouais. Fait que dans le fond, on fait juste diluer notre industrie encore plus.
Parce que je pense que je peux pas m'obstiner avec ton constat que notre géopolitique était gérée à Ottawa, donc via Washington, qui était toujours un peu à regarder par-dessus notre épaule, puis hey, « fais pas ci, fais pas ça, regarde ça comme ci, ouais. comme ça ». Par contre, j'ai pas envie non plus que notre géopolitique se décide à Shanghai. T'sais, à un moment donné non. aussi, il faut choisir... T'sais, tu me dis, on veut pas être le caniche des Américains. J'en suis, je suis d'accord. Je veux pas être le caniche de personne, mais peut-être qu'on est condamné à être le caniche de quelqu'un si on n'est pas capable de se développer une économie forte et capable d'être autonome. C'est peut-être ça aussi là, la base.
Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on soit conscient du fait que les États-Unis vont toujours être notre plus gros partenaire commercial,
ben oui,
géopolitique.
C'est nos voisins.
Maintenant, c'est qu'il faut absolument pas qu'on tombe... qu'on devienne facile,
ouais, mais,
qu'on
mais,
devienne
mais,
acquis, je... qu'on devienne... Il faut qu'on montre des fois, justement, qu'on a la capacité d'être dérangeant, ne serait-ce que pour se rendre un peu plus désirable.
Par contre, il faut choisir qui seront ses prochains alliés. La Chine, oui, bon, OK, on n'a pas le choix. La Chine est déjà très bien implantée dans le monde côté production, manufacture, etc.
Ouais.
Mais tu sais, tu t'en reviens de bord, le Qatar. Et moi, c'est le gars aussi, le porte-drapeau en haut, M. Carney, qui a beaucoup, beaucoup d'actifs dans une compagnie qui s'appelle Brookfield, qui, bizarrement, doit 275 millions à la Bank of China. Et cette compagnie-là, je sais qu'il n'y a plus de droit de record sur ses actions, mais il les a encore, ses actions. Cette compagnie-là, au mois de décembre, qui a signé un deal de 20 milliards avec le gouvernement du Qatar, une compagnie, en fait, du Qatar, mais qui est associée ouais. directement au fonds souverain du pays.
Ouais.
Et là, bizarrement, il part de la Chine, il s'en va au Qatar, tu sais... À un moment donné aussi, il faudrait avoir, avoir la vision claire sur pourquoi c'est nos nouveaux alliés et qu'est-ce qu'ils nous apportent.
Oui, exactement. Mais ça, là-dessus, moi, il y a une déclaration que Carney a faite dans son discours là, à Davos.
Ouais.
Des déclarations qui sont vraiment une rupture énorme avec ce que Justin Trudeau faisait auparavant. Il disait... Nous sommes pragmatiques. Nous reconnaissons que les progrès sont progressifs, que les intérêts divergent, que tous nos partenaires ne partagent pas nécessairement nos valeurs. On collabore de manière ouverte, stratégique, lucide. Nous acceptons le monde tel qu'il est, sans attendre qu'il devienne celui que nous aimerions voir. Ça, cette dernière ligne-là, moi, je trouve que c'est tellement important dans nos relations étrangères. Souviens-toi, J.C. Trudeau, pendant 10 ans, ce qu'on a vécu, c'était de mettre la vertu de mettre les droits humains, mettre le blanche-neige avant les intérêts canadiens. Et là, on s'est retrouvé avec des relations exécrables avec la Chine parce que, bon, il y avait des situations dans le Xinjiang avec les Ouïghours avec lesquels on n'était pas d'accord. Des situations avec les Indiens où là, on n'avait plus de relations avec l'Inde du tout. On n'avait pas de relations avec le Qatar parce que, méchant Qatar, avec l'Arabie saoudite, parce que à un moment donné, là-dessus, je comprends ce qu'il veut dire. Par on doit collaborer pleinement avec le monde tel qu'il est,
mais pas
sans attendre qu'il devienne celui qu'on aime voir.
Mais,
fait que moi, quand on parle de la Chine, je veux dire, gars, la Chine, ce sont les gros chiens, économiquement, industriellement. Si on veut être capable d'avoir une place dans le monde, il va falloir qu'on sorte de notre monde d'arc-en-ciel.
De licorne. Mais j'aimerais que ce soit selon les intérêts canadiens et non selon les intérêts de Mark Carney. C'est juste ça que j'aimerais mettre au clair.
Ah, ça, je le partage avec toi. Ouais, absolument.
Merci beaucoup, Benjamin. Toujours des bonnes journées.
Merci.
Salut, bye. Bye-bye. Benjamin Tremblay, vous en voulez plus. 7 jours sur Terre. Trouvez la chaîne sur YouTube. Et il y a aussi chaque jour sur Terre une chaîne parallèle. Trouvez ça. Informez-vous. Écoutez-en des affaires parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance et qu'on discute. 13h20, on revient.
Ouellette. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.